Nous sommes sur Radio Aligreux FM 93.1 et aujourd'hui j'ai le plaisir de vous accueillir pour ma nouvelle émission Les Grands s'amusent. Je suis Anne Boucharla, Les Grands s'amusent c'est la transmission de nos aînés, ce sont nos mémoires vives. Elle aide à comprendre le passé, c'est la continuité du monde, de nos valeurs et surtout du partage entre nos générations, je crois que nous en avons bien besoin aujourd'hui. Pour ma première émission, j'ai choisi d'inviter Frédéric Meunier. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, merci.
Bon, super. Alors, vous êtes un passionné par l'Ouest américain, par les grands espaces, par les vieilles américaines à quatre roues. D'ailleurs, c'est rigolo parce que vous en parlez un petit peu comme si vous parliez des femmes. On a l'impression que vous en tombez amoureux. Et vous avez parcouru à peu près 50 000 kilomètres là-bas. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Quatre pneus sur la route ». Ce sont un petit peu comme des carnets de voyage où vous nous racontez 10 000 anecdotes variées, passionnantes. Il y a effectivement beaucoup de photos aussi qui nous font rêver. Voilà, c'est une manière de, comme vous dites, de fixer les années 90, les aventures en Amérique. Et alors, vous dédicacez ce livre à votre père et à votre mère. Vous dites à mon père qui le premier m'a montré la voie et à ma mère qui m'a enseigné les mots. Alors ma première question, Frédéric, aujourd'hui, qu'avez-vous reçu en héritage culturel et intellectuel ? En d'autres mots, que vous ont transmis vos parents ?
Alors mes parents sont, comme tous les parents, sont deux personnalités très différentes. Avec un père d'une famille où plutôt on s'entend bien, on a fait des actions, on rit ensemble, on a une forme d'humour, on cherche à créer et à découvrir de nouvelles choses. Et le côté de ma mère qui est très différent, qui est beaucoup plus dans la chaleur familiale, l'intériorisation, le côté intellectuel.
Ouais.
Donc finalement, ma mère m'a donné l'écriture, les mots, la grammaire, l'envie méticuleuse de réussir quelque chose en le faisant point à point, même si ça prend du temps.
Mm-hmm.
Alors que mon père, c'est plutôt dans l'action, les nouveaux paysages. Par exemple, lui, ce qu'il aime, c'est la montagne.
Voilà, ouais.
En vacances,
ouais.
Lui, il voulait aller à la montagne.
Donc les grands espaces, un peu comme...
Les grands espaces, ouais. Mais les grands espaces qui se méritent.
Ouais.
Il n'est pas question d'aller faire du ski, qui est un sport de glandeur pour lui. Pour lui, hein, pas pour moi.
C'est la facilité.
Mais ça, voilà, on arrive en turfesse et on redescend en se laissant glisser.
Ouais.
Évidemment, c'est pas tout à fait ça dans la vraie vie. Il faut demander aussi à Schumacher ce qu'il en pense. Mais bon, voilà, c'est quand même pas extrêmement pareil.
Ouais.
Mais lui, c'est l'effort, le mérite, le travail.
D'accord.
Qui permet justement de profiter des bienfaits de ce que l'on a autour de soi.
D'accord. Donc c'est la rigueur, c'est des valeurs de.
La rigueur, non. C'est le goût de l'effort et du travail.
D'accord.
Qui permet de mériter ce que l'on a, et en particulier de pouvoir aller dans des grands espaces. Et quand on monte et qu'on grimpe sur une montagne, qu'on arrive en haut, et ben on a mérité la vue, on est le seul à être là, à cet endroit-là, à cette époque-là.
D'accord, ok. Et votre mère, donc vous dites qu'elle vous a plus enseigné les mots, qu'est-ce que vous en avez fait de ça pour...
Ben déjà, j'ai eu des très bonnes notes en français quand j'étais en classe.
Ouais.
Donc j'étais souvent lu en classe, ce qui m'a apporté quelque chose qui n'est pas mauvais non plus, c'est la confiance en soi.
Ouais, donc ça c'est quand même énorme,
parce
c'est
que c'est
valeur. Oui.
Honnêtement, quand on baroude, quand on cavale, qu'on est en montagne ou dans les déserts, entre guillemets, pour moi, je suis seul.
Mm.
Et mon père, en principe, il est seul, ou alors il est en cordée avec un guide. Enfin, c'est des groupes extrêmement restreints, parce qu'on est dans l'extrême, on est dans le plus, on fait des choses que les autres ne font pas, et ça, on aime bien.
Donc ce sont des challenges
personnels.
De toujours se dépasser,
non, pas toujours se dépasser. C'est se fixer un but ou ne pas savoir ce que l'on va trouver. De toute façon, aller au bout.
Ouais.
On part quelque part. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Vraiment là, le mental de ce que je vis quand je suis là-bas, c'est go further. C'est aller plus loin. Qu'est-ce qui se passe derrière la colline? Quelquefois, j'ai du mal à m'arrêter. C'est la nuit qui tombe qui me fait m'arrêter.
C'est une grande curiosité.
Beaucoup, énorme.
Une grande
curiosité
de la vie.
Ouais. Oui. La curiosité est un très bon défaut, oui.
C'est un très bon défaut, comme vous dites. Et puis, il y a aussi ce goût de la solitude, parce que quand vous partez, en fait, sur des kilomètres et des kilomètres comme ça, vous partez seul à chaque fois. C'est une aventure solitaire.
C'est pas solitaire, en fait.
C'est pas solitaire.
Non, c'est une, comment dirais-je, c'est quelque chose qui est dans l'indépendance, dans l'initiative, dans la capacité à ressentir sans avoir besoin de partager. Tout simplement parce que j'ai essayé de faire ça avec d'autres personnes, des filles en général, au début en tout cas, et personne n'est capable de me suivre.
Parce que c'est pas, vous n'êtes pas du tout dans le même, dans le même objectif.
C'est ça.
Il y en a, voilà, vous êtes vraiment dans Go Further, comme vous dites, vous dépassez, et puis la personne à côté est plus dans le... Dans le voyage,
dans le tourisme.
Dans le tourisme. Voilà.
Donc, de toute façon, on ne peut pas avoir le même rythme. Donc c'est ça aussi qui joue beaucoup. Et je l'ai parfaitement ressenti avec le retour d'une de mes amies. Ils étaient partis à 3, ce qui est un très mauvais chiffre pour faire ce genre de choses. Puisqu'en permanence, on est à 2 contre 1. C'est comme sur un bateau. C'est vraiment le pire. C'est le pire de ce que l'on peut imaginer. Elle l'a fait, elle l'a mal vécu. Elle tenait la chandelle, les deux étaient ensemble. Enfin, c'était la cata pour elle. Ce que j'admets et ce que je comprends très bien. Et je me suis très vite rendu compte que même avec des gens un peu challenger, qui ont un peu le goût du sport, etc., on n'a pas le même rythme. Je viens de faire 412 km, je suis fatigué, je fais comme Forrest Gump, je m'arrête, je dors. Et je vais dormir 20 minutes, et je vais redémarrer, et je vais repartir chousse, et je vais refaire 200 km pour trouver où dormir. Tout le monde ne fait pas ça. Et puis quelqu'un va me dire « Ah, mais il faut s'arrêter là, il y a un truc à voir ou une photo à faire ». Ah oui, mais moi, j'ai pas prévu, parce que je n'ai pas prévu du tout.
Vous prévoyez rien, en fait.
Voilà.
Vous partez complètement.
Complètement.
Vous laissez bercer par...
Non, ce que... pas, bercer, c'est pas le terme que j'emploierais.
Mais vous vous laissez aller à votre rythme, au gré des rencontres, au gré des...
Du climat.
Du climat. Au
gré... Ça compte beaucoup. C'est là où on est vraiment en phase avec la nature, avec l'environnement, les insectes, avec le vent, l'air, la pluie, la lumière. On est vraiment en phase. Et la couleur aussi, beaucoup. Les odeurs.
Les odeurs. Et alors, qu'est-ce que vous diriez justement sur les valeurs de votre famille, de vos parents? Ce sont des valeurs qui sont solides, qui vous ont permis justement de...
Ils sont solides et transmissibles et intemporelles. Donc ça, c'est pas mal parce qu'il y a 1000 ans, on pouvait déjà avoir ces valeurs-là. Par exemple, pour un menuisier ou un ébéniste, de faire quelque chose de bien comme il le faut. Et puis, quelqu'un qui est plus aventurier et qui va charger un galion avec Christophe Colomb et qui va découvrir l'Arkansas. Où il n'est jamais allé, bien entendu.
Alors, vous avez choisi une première musique qui est dans le thème justement de vos voyages, qui s'appelle Sweet Home Alabama. Donc, je vous propose qu'on la passe maintenant, et puis vous allez me raconter ensuite,
Bien sûr.
Pourquoi vous avez choisi cette musique. Voilà, on l'écoute. Sur Radio Aligre 93.1 pour la nouvelle émission que je viens de lancer, Les Grands s'amusent sur la transmission de nos aînés. Donc on est toujours avec Frédéric Meunier qui a beaucoup voyagé dans l'Ouest américain et qui va nous raconter pourquoi il nous a choisi cette musique Sweet Home Alabama. Voilà, racontez-nous Frédéric.
Oh, c'est très facile, en deux mots, c'est une musique d'une certaine génération avec un style de liberté et d'épanouissement.
Ouais.
C'est le type vraiment de musique que l'on met sur la route.
Ouais,
et ça me fait en fait penser aussi à Easy Rider avec Peter Fonda, mais s'il n'est pas forcément dans le film, mais c'est l'esprit, c'est l'ambiance, c'est... Je suis calme, je suis zen, je suis heureux et je plane sur la route avec le goudron et mes quatre pneus.
C'est vrai qu'on plane complètement quand on écoute ça. On a vraiment envie d'être dans une vieille décapotable.
C'est exactement ça. Je vous imagine
complètement. Ouais.
Sachant que je ne suis pas allé en Alabama, ce qui est le plus amusant.
Pas encore.
Oui, enfin, je n'ai pas encore eu besoin. Sans faire de mesures précises, mais je crois que j'ai dû visiter 15 ou 16 États dans l'Ouest. Donc j'ai à peu près la totalité, sauf l'État de Washington, qui est un petit peu en haut et à gauche. Sinon, le reste, je suis allé quasiment partout. Dakota du Nord, aussi, North Dakota, je ne suis pas passé.
Ouais.
Mais je crois que tout le reste, jusqu'à Oklahoma, Kansas, Nebraska, Texas, bien entendu, tout ça, je suis passé.
D'accord. Alors, justement, j'ai une autre question. C'est quoi votre plus belle aventure, Frédéric?
La plus belle aventure, c'est déjà de rester en vie.
Ouais, bon, c'est déjà un beau challenge. Mais j'ai l'impression que en étant comme ça joyeux, en faisant des choses que vous aimez, des voyages, c'est une belle manière de rester en vie, ça, non ?
Oui, ça, on vit très bien. On perçoit vraiment bien l'effet du temps et chaque journée est beaucoup plus longue que pour quelqu'un d'autre.
Ouais.
C'est clair que là, le ressenti est tout à fait fabuleux. Un simple exemple avant de revenir sur votre question, je tombe souvent par hasard parce que je les cherche, mais je sais pas où elles sont, sur des cases de voitures anciennes. Les voitures anciennes sont maintenant des vieilles chignoles complètement pourries et rouillées, évidemment.
Ouais.
Elles ont au moins entre 50 et 80 ans pour la plupart. Eh bien, je suis arrivé là, je suis entré, on m'a demandé 4 dollars que j'ai donné avec satisfaction et plaisir pour partager, et on m'a donné l'accès à l'ensemble de la case où il y avait peut-être 2000 voitures en épave avec des camions, des pièces froissées, des gouttes d'huile qui traînaient, enfin des trucs vraiment dangereux, avec des rattlesnakes aussi, des serpents à sonnette.
Alors pourquoi il fallait payer pour rentrer dans
Une casse. C'est un musée à ciel ouvert.
D'accord. Ah, c'est rigolo.
Alors, pour nous, c'est une casse. Pour eux, c'est un musée à ciel ouvert.
D'accord.
Mais il est là depuis 50 ou 80 ans. Et je vous dis, je vous répète, qu'en plus, vous avez des serpents à sonnette qui se pointent. En plus, des sauterelles, il faut faire la différence. Sauterelles, vous risquez rien.
Ouais.
Rattlesnake, c'est presque le même bruit, mais c'est beaucoup plus dangereux.
D'accord.
Vous avez entre un quart d'heure et une demi-heure avant d'avoir de grandes chances d'y passer.
Ouais, donc ça, c'est la vraie aventure.
Ah ben, il faut aimer, moi j'y vais.
Oui, j'imagine.
Mais c'est pas le meilleur moment, mais c'est un des moments réguliers que je vis là-bas.
Ouais, d'accord. Voilà. Donc des choses complètement inattendues.
Auxquelles les gens ne pensent pas. Ils ne savent pas que c'est là. Mais évidemment, eux, ils vont sur les interstates, moi je prends les petites routes.
Mais alors, comment vous tombez sur des endroits comme ça, justement?
Comme ça, par les petites routes.
C'est par les petites routes.
J'ai une carte comme tout le monde.
Ouais.
Parce que quand vous êtes au Nevada ou en Arizona, vous ne savez jamais trop. Enfin, il y a toujours des grandes villes ou des bourgades. Mais sinon, le reste, il n'y a rien. Ben, moi, je vais là où il n'y a rien.
D'accord.
Comme ça,
je fais des choses
que personne au monde n'a jamais fait, ni avant moi, ni probablement plus tard.
Ouais.
Et en tout cas, il y a un endroit en particulier où je suis passé 3 fois et il n'y a rien. Quoi. Et cet endroit-là, j'aime beaucoup parce qu'on vous sert des pickles au petit déjeuner, mais on vous refuse les œufs. Parce que les œufs, c'est à partir de l'heure du déjeuner.
D'accord.
Donc moi, j'ai jamais eu droit aux œufs au petit déjeuner. Et c'est un truc où on se demande où sont les clients. Je suis la plupart du temps, il n'y a que moi.
Complètement seul.
Seul, avec la barmaid et le patron. Et puis, au plafond, il y a des centaines de billets de 1 dollar qui sont punaisés parce que ça permet de faire la décoration et chacun met un billet de 1 dollar quand il passe. Mais comment ils ont fait tous pour passer là que je ne vois jamais personne?
Alors, jamais personne.
Et qu'il n'y a que de la piste. Il n'y a pas de route.
Et qui sont les gens qui passent?
Exactement.
C'est drôle.
Et des motards, certainement.
Oui, des motards qui prennent la route 66. Bon, alors, votre plus belle aventure, Frédéric?
Alors, ma plus belle aventure, effectivement, je dirais que c'est d'avoir réussi à récupérer ma bouteille de Gatorade avant qu'elle ne tombe de 300 mètres.
Ah, c'était où ça, alors?
Alors, ça, c'est à côté de ce qu'on appelle les draperies.
Ouais.
C'est au sud de Utah. et donc il y a plein de coins comme ça, je ne vais pas tous les citer, ce serait trop long, mais très facilement vous laissez votre voiture dans un canyon et on vous propose, enfin vous supposez que c'est intéressant, parce qu'il n'y a rien évidemment, de monter la petite piste en lacet qui monte de 300 mètres pour aller sur la falaise. Vous avez une vue extraordinaire, il y a plein de coins comme ça, je le répète. Et j'ai voulu me prendre en photo pour me faire plaisir, parce que c'est rare que je sois pris en photo, parce qu'il n'y a personne pour le faire. Donc j'ai évidemment le matériel qu'il faut avec le retardateur. Je l'ai posé au bord de la falaise et je me suis aperçu qu'il y avait une crevasse à côté avec un petit buisson. Alors pour faire l'angle et la netteté de la photo, j'ai mis ma bouteille de Gatorade juste au ras de la crevasse. Et puis quand j'ai mis le retardateur, j'ai vu que j'avais 15 secondes, bah j'ai sauté par-dessus la crevasse et je me suis retourné pour avoir l'air de sourire à mon appareil en récupérant la bouteille de Gatorade dans laquelle j'avais shooté.
D'accord.
Donc elle glissait et elle tombait. Donc je me suis penché en avant et je me suis commencé à glisser vers le vide et il n'y avait rien. J'étais en pente et au-dessus de la pente, il y a 300 mètres. Et il y a le buisson, je savais qu'il ne tiendrait pas. C'est des rochers extrêmement secs, qui s'arrachent. Donc il fallait que je m'arrête, il fallait que je me débrouille. Et ça, c'était une belle aventure que j'ai souvent en tête pour prendre conscience de la réalité de ce que l'on vit.
Et vous avez justement jamais eu de peur qui vous ont empêché de partir, de repartir,
La peur,
d'explorer. Jamais peur.
Il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur, c'est foutu, vous êtes mort.
Ouais, d'accord.
J'ai rencontré un grizzly, un ours noir, face à face. S'il ressent ma peur, je suis mort.
Ouais. Donc, je me souviens de ce passage dans votre livre.
Oui, je le raconte. Et j'ai la photo qui le prouve, bien entendu.
Oui, exactement. Et il était très sympa, d'ailleurs, ce petit grizzly.
Oui, enfin, il était encore à quatre pattes quand je l'ai pris en photo, heureusement. Mais debout, il était aussi grand que moi.
Ouais.
Et le truc, et ça, c'est du mental. Et ça, je le donne vraiment comme conseil, vraiment très sérieusement aux gens qui veulent faire ce genre de choses. C'est d'abord ne pas avoir peur. Parce que la peur, ça se domine. C'est comme le reste. C'est du courage, finalement. C'est tout bête à dire. C'est simplement modifier l'appréhension de l'environnement pour que ce soit compatible avec vous. Si vous avez peur, c'est que vous ne maîtrisez pas. Vous maîtrisez, vous n'avez pas peur. Donc, il faut se débrouiller pour modifier l'environnement. Comment j'ai fait pour cet ours? C'est très simple. Je l'ai considéré comme un gros labrador noir, pas très bien élevé.
Ouais, c'est intéressant.
Et pas très propre.
Ouais, c'est intéressant. Ouais.
Et il fallait que je pense ça, je me suis forcé mentalement pour que ne pas avoir peur.
Ouais.
Et à ce moment-là, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas passer à deux dans le chemin. Il y avait du vide à gauche et des fougères à droite. Donc je suis monté un peu dans les fougères. On ne tourne jamais le dos à une bête sauvage. On ne part pas, on ne lui laisse rien. Pas de sac, pas de bouffe, rien. Donc, je me suis écarté un peu, et pendant ce temps-là, il me flairait à 4 mètres. J'ai sorti mon Nikon, et il me restait à l'époque une pellicule, et il me restait une photo sur la péloche. Et j'ai shooté en tenant compte de la distance qui se réduisait, puisqu'il avançait en flairant. Et à 3 mètres, je l'ai shooté, et après, il est parti dans la pente, parce qu'il cherchait à boire, il avait un petit ruisseau.
Donc, ça n'a pas été une expérience trop traumatisante.
Ah, pas du tout, au contraire. C'était jouissif, c'était vachement sympa. C'est ça qui vaut le coup d'être vécu.
Ouais. C'est tellement imprévisible. Et
les gens ont toujours peur, ils sont dominés par la peur, même au quotidien, aujourd'hui. C'est idiot.
C'est ça. Je pense que donc, ça, c'est vraiment une leçon de vie, c'est à transmettre à nos jeunes aujourd'hui, c'est de ne pas avoir peur.
C'est tout à fait ça.
D'y aller. Et à propos de ça, est-ce que vous trouvez justement que nos jeunes, aujourd'hui, les jeunes sont assez armés pour faire face à la vie, surtout à ce qui se passe en ce moment avec le...
Pas du tout.
Pas du tout,
Pas du tout. C'est justement, le contexte est complètement anxiogène. On nous abrutit de données invérifiables et qui ne sont pas forcément vraies. Je ne vais pas me faire l'apôtre du diable, mais franchement, des limitations en horaire, des confinements et tout, c'est bien. Mais il faut être responsable. Et responsable à titre individuel, pas à titre collectif. Mais ça, c'est mon point de vue. Je suis tout à fait prêt à en discuter. Je donne un autre exemple de peur qui me semble intéressant et qui peut être tout à fait quotidien, même dans Paris d'ailleurs, même boulevard Voltaire, à la limite, pourquoi pas, ça peut arriver. Je prends un motel à Reno, entre la Californie et le Nevada, juste à la limite.
Le petit Las Vegas, non, c'est ça?
Oui, enfin, du pauvre.
C'est du pauvre.
Du pauvre, et c'est quand même beaucoup, beaucoup moins que Las Vegas. Si vous voulez voir Las Vegas aussi sympa et plus petit, où il y a moins de choses à faire, vous allez à Atlantic City sur la côte Est, où là, vous avez la plage, l'Atlantique et les casinos avec la tour Trump, enfin, Taj Mahal, enfin, vachement bien. Des sucres super. Mais là, le Reno, c'est une ville assez importante quand même. n'y a aucune piscine puisqu'il fait froid. Enfin, bon, c'est pas toujours. Enfin, ça dépend des saisons.
C'est pas
top, quoi, on va dire. Mais c'est rigolo.
Ouais, faut aimer.
Il y a des musées de voitures aussi. Bon, donc ça aide un peu.
Ça aide. Et du coup, je vous ai un peu coupé sur on parlait de peur.
Alors voilà, justement. Donc j'arrive, je prends un motel à Reno, un motel quelconque, parce que je voulais avoir une bonne nuit sympa. C'était le vendredi soir, je voulais repartir bien pour le week-end. Et en fait, je m'aperçois que le motel, il y a des portes ouvertes tout au long du premier étage. Il y a souvent des galeries sur les motels, il y a deux niveaux, rez-de-chaussée premier ou premier, les portes sont ouvertes. Je dis, tiens, c'est bizarre. Bon, on me donne une chambre qui, par hasard, n'est pas très bien située, près de la route, tout ça. Elle était sale, c'était un peu embêté. Je pose mon sac quand même, je m'en fous de la saleté, je suis habitué. Bon, je ressors, il y avait deux clochards sur le coffre de ma voiture, dont un l'a m'attendu avec des pilules de couleurs diverses et qui m'incite à en prendre et il me les offre. Il a fallu que je parle de moins en moins bien anglais pour l'expliquer que je ne comprenais rien à sa demande, que j'étais très content de faire connaissance avec leur amitié et qu'est-ce que je pouvais faire pour les aider. Et là-dessus, le deuxième m'a dit, ben, c'est très simple, si tu restes, eh ben, là-haut, il y a plein de filles, mais on peut attraper tout ce qu'on veut, il faut bien les choisir. Et l'autre m'insistait pour la drogue. Et j'étais entre les deux, ils étaient assis sur le coffre de la voiture.
Et
il a fallu que je m'en débarrasse.
Assez chaud, assez
c'est embêtant, chaud. C'est une situation qu'il faut maîtriser sans s'embêter parce qu'on ne sait pas comment ça peut tourner. Je ne sais pas s'ils ont un couteau, je ne sais pas s'ils sont, ils sont déjà drogués, ça c'est clair. Je ne sais pas quelle est la drogue. Est-ce que c'est une drogue qui est un peu réactive ou une drogue zen? C'est peut-être du cannabis tout bêtement, alors c'est pas bien méchant, mais ça peut être beaucoup plus embêtant.
Donc là, on en revient toujours à ces histoires de peur, s'adapter. Ne pas avoir peur de l'autre et puis essayer de comprendre qui on a en face de soi.
Exactement. C'est très bien. C'est tout à fait l'attitude qu'il faut avoir.
Bon, bah, bravo. Alors, on va passer une deuxième chanson que vous avez choisie. Alors, je vous laisse... c'est les Beatles. Alors, je vous laisse donner le nom de cette chanson.
C'est « Eight Days a Week ».
Ouais, exactement. Donc, on va passer cette musique. Et juste après, on prendra un appel d'un jeune homme, Nance, parce que, comme je vous le rappelle, c'est une émission sur la transmission et la transmission intergénérationnelle aussi. Donc, Nance vous posera une ou deux questions après la musique, les Beatles. Tout de suite. We'll be right back. c'était les Beatles, 8 Days, choisi par Frédéric Muni, mon invité, pour Les Grands s'amusent sur Radio Ali 93.1. Les Grands s'amusent, c'est une émission sur la transmission de nos aînés. Nous allons prendre un appel de Nance, un jeune homme qui a des questions à poser à Frédéric Meunier. Voilà, est-ce que vous êtes avec nous? Voilà. D'accord. Donc nous allons prendre Nance au téléphone là dans quelques instants. En attendant, Frédéric, vous allez me raconter pourquoi vous avez choisi ce morceau des Beatles.
Pour moi, c'est une musique extrêmement culturelle. C'est l'intermédiaire parfait entre le classique et la musique dite moderne, ouais. Qui est évidemment extrêmement vaste. Et surtout, c'est une musique émotionnelle avec un son extrêmement particulier qu'on retrouve dans énormément de musique des Beatles. Ouais. Et surtout, qui est en principe assez facile à jouer à la guitare.
Vous jouez de la guitare, vous ?
Aussi, oui.
Ah ouais ? Donc, vous êtes parti avec votre guitare
Non, c'est trop non, lourd. C'est trop lourd et trop fragile. Non, je ne peux pas.
Ok. Ok. Bon, je crois qu'on a Nance en ligne. Là, vous allez pouvoir partager ce moment avec lui. Bonjour, Nance.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Eh bien, ça va et toi ?
Super. Alors là, on est en direct avec Frédéric Meunier.
Oui, bonjour.
Donc, bonjour, merci de prendre ce temps.
Très bien. Je te laisse poser ta ou tes questions, Nance.
Alors, j'avais deux petites questions. La première, donc avec ce qu'on vit actuellement, je pense que la situation est bien connue. Comment vous imagineriez la figure du voyageur des décennies à venir ?
Ah, ben ça va pas être facile comme réponse, effectivement, parce que on ne sait pas comment on va en sortir de cette situation. Pour l'instant, on en tient compte, mais on suppose que quand les frontières vont rouvrir, et visiblement c'est pas la semaine prochaine, on pourra recommencer à partir. Mais pour l'instant, les voyages, il faut pas trop y compter, et si vous pas se focaliser et espérer ça, parce qu'à mon avis, on va être déçu. Il faut se projeter, à mon avis, dans le futur, mais on peut pas avoir du court terme, c'est pas possible.
C'est bien tout le problème de la situation.
Oui.
Et du coup, la deuxième question que je voulais vous poser, c'est selon vous, quel support permet de retranscrire le plus fidèlement l'expérience de la route ? L'expérience de la route.
Ah, l'expérience. Alors, le support, c'est une question assez intéressante et même intelligente, je dirais, parce que ça dépend aussi de la personnalité du routard, enfin de la personne qui voyage. Je dirais qu'au début, c'était le papier. J'ai des carnets à spirale. J'explique tout dans mon livre, d'ailleurs, dans 4 pneus sur la route, parce que ça permet de partager et de montrer vraiment comment faire pour bien réussir son expérience. Donc, au début, c'est le papier et il faut tout noter. Moi, je notais le prix de l'essence, la vitesse à laquelle je roulais, le buzzard que j'avais rencontré. Je note tout. Parce qu'après, en 3 jours, on a tout mélangé. Et ça permet d'avoir l'heure, ce qui s'est passé et des chiffres. Et grâce à ça, après, on va pouvoir se focaliser et revenir sur ses souvenirs avec les photos. Et on aura vraiment quelque chose de bien et de concret qu'on va pouvoir garder des années. Donc, deuxième support, l'image, les photos. On peut même maintenant faire des vidéos aussi, mais c'est pas facile de faire des vidéos tout en profitant de ce que l'on a autour de soi. Et après, il faut les projeter, ça prend un petit peu de temps à visionner. C'est pour ça que personnellement, je préfère l'écrit, donc le papier. Au début, les carnets, maintenant le livre, 4 pneus sur la route, et puis les photos. Voilà, c'est vraiment les deux supports qui me semblent le mieux.
D'accord, mais du coup, qui se complètent
Complètement, c'est ça.
Et je crois que, Nance, tu avais aussi une question qui était un petit peu plus pushy sur l'écologie. Peut-être que tu peux oser.
Ça rejoint un petit peu la question de la figure du voyageur dans le futur. Il y a beaucoup d'enjeux, du coup, là, qui se révèlent. Mmh. Donc, coronavirus, mais on peut imaginer des enjeux sanitaires. Mais peut-être que, du coup, les mesures vont se durcir sur le long terme. Et puis, il y a la conscience écologique qui grimpe. Du coup, c'est vrai que la figure du voyageur, elle a un peu malmenée ces derniers temps.
Bon, ça, c'est une opinion, mais je ne suis pas tout à fait d'accord. Mm-hmm. Je donne un exemple précis qui me vient à l'esprit. J'étais à côté de Mexican Hat, de mémoire. Donc, c'est tout près de Monument Valley, qui est vraiment mythique, que tout le monde connaît au monde. Enfin, on a déjà vu des images, quoi qu'il arrive. Mm-hmm. C'est devenu très touristique, méfiez-vous. Il y a beaucoup de panneaux publicitaires. Les Indiens sont un peu mendiants. Enfin, c'est pas très aussi sympa qu'on le croit, mais le lieu est très beau. Et donc, juste à côté de cet endroit-là, j'étais sur une piste, comme d'habitude, et je vois un feu. Alors ça, les Américains, j'adore, parce que les Américains, ils pétochent à mort dès qu'il y a un feu de forêt. Mmh. Ça, c'est un truc pour ça, c'est la catastrophe, c'est le cataclysme, il faut envoyer les Canadairs. Bon. Ce qui fait que grâce à ça, j'ai pu monter à 160. J'étais autorisé à rouler à des vitesses de dingue, pour eux en tout cas, parce que j'allais chercher les flics. Et au premier village, donc à Mexican Hat, je me suis arrêté, et j'ai demandé à faire le 911, numéro d'urgence, pour envoyer des hélicoptères, ou que l'on m'accompagne avec une voiture de police toute sirène hurlante pour montrer où était le feu. J'aurais trouvé ça pas mal. Bon, manque de peau, ils ont envoyé l'hélicoptère tout de suite, je ne suis pas retourné sur place. Mais le fait d'être seul, quelque part, n'importe où, et de découvrir un feu, c'est écologique. Vous pouvez empêcher quelque chose qui puisse se propager, faire du dégât, ou sauver quelqu'un qui s'est perdu ou qui risque de mourir. Il y a eu un film assez connu qui s'est fait là-dessus, avec un type qui tombe dans une petite faille. Je vous laisse retrouver le titre, c'est le nombre d'heures où il est resté dedans.
Ah oui,
d'accord.
Si quelqu'un passe par là, il peut le sauver, j'aurais pu être par là.
Effectivement, c'est un prisme par lequel je n'avais jamais envisagé le sujet.
Eh ben voilà.
Voilà, c'est l'intérêt du partage et de la transmission.
Et effectivement.
Merci, Nancy. Est-ce que tu as une autre question ou...
A priori, non.
D'accord. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas de nous avoir rappelé.
Je crois que
Frédéric a quelque chose à rajouter.
Je rajoute un petit mot sur la sécurité, la peur et les conditions sanitaires. Parce que je dirais, aux États-Unis, dans l'Ouest, on est vraiment très facilement en sécurité. C'est très rare qu'on risque quoi que ce soit, ou c'est vraiment de sa faute. Et ça, c'est normal, on est là pour ça. Mais on est vraiment en sécurité. Je m'arrête pour prendre une photo sur une piste dans un coin complètement paumé d'Arizona. Et... qu'est-ce qui se passe? Des Indiens s'arrêtent pour me demander si je suis en panne. Alors qu'en fait, il n'y avait rien et je ne les ai même pas vus arriver. Donc non, on ne risque rien et sanitairement parlant, on peut prendre des hamburgers. Il suffit d'avoir un peu d'argent, $2 et on mange. Hein, ce n'est pas difficile.
Ouais, ok. Voilà. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Nance, d'avoir appelé. Et puis, bonne journée à toi.
Merci à vous deux.
À bientôt, au revoir.
Merci, bonne journée. À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Alors, j'ai une question, Frédéric. Quel a été votre modèle, votre héros pendant votre enfance qui vous a donné envie d'aller plus loin?
Alors, j'ai plusieurs héros, bien sûr, mais je ne vais pas en citer beaucoup. Hein, je ne vais en prendre que deux, très, très rapidement. Le premier, c'est Lindbergh, par exemple, car il a osé. Il a été pris par la vitesse. Parce que plusieurs aviateurs souhaitaient, évidemment en 1927, on avait vite compris, traverser l'Atlantique en avion. Et il a compris que tous ceux qui faisaient ce genre d'expérience, encore là aussi une expérience assez unique, se trompaient et ne réussissaient pas, chutaient, tout simplement parce que leur avion était trop lourd. Et il a compris que c'était la légèreté et l'autonomie, l'indépendance, le fait d'être seul, qui était la condition sine qua non et indispensable pour réussir. Mm-hmm. Les équipages de deux ou trois, ça demandait... Ça exigeait trop de poids, donc d'essence, et c'était impossible.
Ouais.
Ou des bimoteurs, des trimoteurs, c'était infaisable. Donc il a traversé, évidemment, avec le Spirit of St. Louis, en monomoteur, avec l'essence largement suffisante, et le reste, il n'avait rien. Il avait deux sandwichs, je crois, qu'il a à peine entamé, parce qu'il n'avait pas faim, et un siège en osier. Et c'est tout, il n'avait même pas de siège de pilote, un siège en osier. Mmh. C'est la folie, quoi. Et il l'a fait, parce qu'il a osé. C'est une expérience que je trouve absolument remarquable. Mmh. Voilà un de mes premiers héros depuis toujours.
Qui vous a fasciné ou qui vous a donné envie d'aller de suivre vos rêves.
Voilà, donc c'est même 1927, il a eu des conditions difficiles, il a traversé un orage de grêle, et quand il est arrivé, il a eu deux choses que j'ai trouvé absolument formidables. La première, c'est qu'il a estimé qu'il s'était trompé sur son cap, car il est arrivé à 5 km du point prévu en Irlande. Mm-hmm. 5 km après avoir traversé l'Atlantique pour la première fois au monde.
C'est rien du tout.
C'est extraordinaire.
Il
a dit, ou 5 miles peut-être, ça fait peut-être 8 km. Bon. Et je trouve que déjà, ça c'est fabuleux. C'est un côté de prise de conscience détachée, d'humour, qu'on a tout à fait dans ma famille. Mm. Et c'est comme ça qu'on voit les choses, quand on fait des choses qui dépassent un peu les autres et qu'on n'imagine pas qu'on pourrait avoir fait.
Et c'est vrai que quand on lit votre livre, j'ai remarqué qu'il y a souvent des points d'humour un peu quand vous arrivez à Houston et qu'à la douane on vous demande où vous logez, vous répondez vous donnez
York.
Une adresse à New York. ça m'a fait rire, donc c'est vrai qu'il y a plein de petites points d'humour comme ça.
Oui, après j'ai arrêté parce que le douanier n'est pas pas beaucoup.
Il avait moins d'humour.
Voilà.
Il était moins drôle.
L'humour, c'est quand même génial parce que ça permet de prendre des tas de choses vraiment en main. Et la deuxième point, toujours avec Lindbergh, c'est quand il est arrivé au-dessus de Paris où tout le monde l'attendait, il y avait une foule immense, comme vous pouvez imaginer. Il s'est dit, j'ai encore pas mal d'essence, pourquoi j'irai pas jusqu'en Italie? Et puis c'est non, on m'attend, je descends. Et c'est vrai, il l'a pensé. C'est extraordinaire. Enfin, c'est là aussi un détachement, une prise de hauteur, une maîtrise de la situation qui est tout à fait intellectuelle. Et que là, c'est le côté intellectuel du côté de ma mère que j'apprécie beaucoup. Vous voyez que ça se recoupe tout à fait et ça fait des choses très bien.
Oui, les deux, effectivement. C'est à la fois pas de limite, mais c'est réfléchi. On part pas comme ça.
Non, on part pas comme ça. On sait ce que l'on fait et après, on vit sur place qu'est-ce que l'on peut.
Oui, c'est pesé, c'est analysé, c'est...
Oui.
Donc ça, c'est un nouveau modèle. Est-ce que vous aviez d'autres modèles?
Alors, l'autre modèle que j'évoque avec beaucoup de simplicité, c'est un grand-oncle que j'ai beaucoup apprécié et beaucoup aimé, qui a connu la guerre de 14. On peut dire que moi, j'étais un peu jeune quand je l'ai connu. Il était âgé, évidemment. Et il est arrivé, il a été envoyé, comme tout le monde, il avait 17 ou 18 ans, à mon avis, je ne me rappelle pas, évidemment. Il était envoyé dans les tranchées, comme tout le monde, c'est la guerre.
Et
il est arrivé, et je vous rappelle que c'est un grand-oncle de ma famille, donc quelqu'un de certain style, parisien, on est tous parisiens dans la famille, peu importe. Et alors, il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais ça va pas, non, c'est beaucoup trop salissant. Donc il a fait des pieds et des mains au sens propre du terme, et il s'est débrouillé pour être versé dans l'aviation. Pour sortir des tranchées, et qui était émergente à l'époque. Alors l'aviation n'était pas moins dangereuse, parce qu'il n'y avait pas de parachute. Et on ne donnait pas de parachute pour éviter aux pilotes... dirais-je, l'envie de quitter leur appareil si jamais ils étaient, on leur tirait dessus. Après, c'est venu quand même, on a été un peu moins cons, on a changé un peu la donne. Mais en 14 ou en 17, il n'y avait pas de parachute. Il s'est fait abattre, et je l'ai très bien connu, parce qu'il n'a été que blessé. Mais comme il est tombé dans les lignes allemandes, il a été fait prisonnier.
Ouais.
Donc lui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour aussi, qui voyait les choses vraiment bien, et qui avait le sens, et c'est un terme que j'apprécie beaucoup, un sens de la qualité de la vie. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de ressentir ce qu'on a envie d'avoir et d'être.
De se connaître, finalement.
Et il s'est dit, moi, il fait moins 30 là-haut, avec mon avion, mon biplan et tout, qui plafonne à 140, 160. On se bat comme on peut, et puis on crève de froid. Mais tant pis, je préfère avoir froid et être propre.
Il a fait son choix, il a fait ses choix, il a osé.
Il a réussi.
Il a osé.
Et il a été élève officier, mais il n'a pas eu le temps de passer officier avant d'être abattu. J'ai fait pareil, j'ai fait élève officier aussi, parce que je trouvais que c'était bien. Pendant le temps, on est obligé d'être à l'armée ou d'en faire quelque chose de bien.
Faire quelque chose de bien.
Voilà. Et d'avoir des choix, de choisir sa vie.
C'est ça. En fait,
je pense que
vrai.
Choisir sa vie, ça permet de maîtriser la qualité. Et ça, c'est quelque chose que je peux donner aussi, que j'essaie d'apporter.
D'apporter aux jeunes. Mais pour choisir sa vie, il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir une certaine assurance et se connaître, etc. Donc, et pour se connaître, qu'est-ce qu'on fait pour justement avoir cette assurance?
Il faut suivre ses envies, mais même et surtout si elles ne sont pas celles des autres. Comme ça, vous êtes différent et si vous assumez votre différence, vous serez heureux. Maintenant, et certains, on va leur dire « t'es ridicule ». C'est très bien, ça n'a aucune importance. À ce moment-là, vous prenez votre combinaison de canard, les plumes de canard.
Ouais.
Le fait d'être ridicule, c'est complètement idiot de dire ça. Parce que c'est un a priori sur une personnalité. Et vous ne savez pas pourquoi il va vous dire ça. En fait, vous êtes peut-être totalement ridicule, mais beaucoup plus qu'il ne le croit. Mais c'est votre choix.
Est-ce que vos parents vous ont toujours soutenu dans vos projets un petit peu
On va dire oui.
Oui.
Pas surtout vraiment parce que c'est vrai que je suis un peu un vilain petit canard de ce point de vue-là. Mais en majorité oui. Oui, c'est vrai. Oui. Je vais donner un exemple aussi, mais un simple terme, on va vite comprendre. Prenez Elton John. C'est quelqu'un qui a une personnalité assez particulière. Tout le monde ne le maîtrisait pas de cette façon-là dans les années 80, on va dire. Le fait d'être homosexuel, c'était pas forcément très bien vu.
Très, très facile à gérer.
Et pourtant, musicalement, il est extraordinaire. C'est le premier qui a fait quelque chose de... Enfin, non, c'est pas le premier, je pense que c'est quelqu'un d'autre, effectivement, mais Jerry Lewis. Mais il a fait au piano des trucs qui sont absolument géniaux. Et il s'habillait de manière complètement délirante. Il a assumé. C'est très bien.
Et c'est à chacun d'assumer effectivement sa vie, ses choix, et c'est comme ça qu'on est heureux,
exactement.
Je pense.
C'est ça qu'il faut faire. Ouais, on n'a qu'une vie, il faut la réussir.
Il faut la réussir, exactement. Mais pour ça, il faut avoir des bases solides. Des bases un petit peu solides. On va passer une petite musique, cette fois, Paolo Conte. C'est mon choix.
Bien, très bien, je suis ravie d'apprendre.
À tout de suite.
Macaco senza storia, dice lei di lui. Che gli manca la memoria, in fondo ai guanti bui. Ma il suo sguardo è una veranda. Tempo al tempo e lo vedrai, che si addentra nella giungla, non incontrarlo mai. De-de-de, de-de-de, de-de-de-de. Guardato in fondo al gioco, tutto qui, ma sai, sono un vecchio sparring partner e non ho visto mai. Una calma più di grata, segreta di così, prendi il primo pullman via, tutto il resto è già poesia. Certi applausi ormai, sono dovuti per amore, non incontrarlo mai. Stava lì nel suo sorriso, a guardar passare i tram. Vecchia pista da elefanti stesa sopra al macadam.
Vous êtes sur Radio Aligre 93.1. Sur la nouvelle émission Les Grands s'amusent, que j'ai le plaisir d'animer aujourd'hui, avec mon invité Frédéric Meunier. Voilà, c'est une émission sur la transmission de nos aînés, sur nos mémoires vives. Elle aide à comprendre le passé, c'est la continuité du monde, de nos valeurs, et puis surtout du partage entre générations. Alors Frédéric, moi je voulais savoir comment vous étiez à 10 ans, quel petit garçon vous étiez à 10 ans.
J'étais un petit garçon, on va dire, ambivalent. J'avais deux personnalités complémentaires.
Ouais.
J'étais sage et bien élevé avec les parents et la famille.
Bon. Ouais.
Et j'étais un petit peu plus enjoué et un peu plus externalisé, on va dire, si on peut dire, un peu impropre, mais volontaire
ouais.
de ma part,
ouais.
En classe et avec les copains.
Et alors pourquoi? Parce que c'était, chez vous, on n'avait pas le droit de rigoler?
Ah si, si,
si
mais
si.
C'était de l'humour, j'en ai parlé tout à
ouais,
l'heure,
ouais,
c'était de l'humour
ouais.
intellectuel, bien
ouais,
entendu.
Ouais, ouais.
C'était,
ouais.
Bon, c'était maîtrisé. maîtrisée et encadrée. Ouais, et puis d'accord. Il y a le respect vis-à-vis des parents, il y a la transmission du savoir et de l'éducation. Ce qui fait qu'il y a on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi à table.
Ouais.
Bon, alors qu'en classe, c'était tout à fait différent. Et j'irais peut-être pas le pitre, mais je sais que 20 ou 30 ans plus tard, on se souvient de moi.
D'accord. Et alors justement, aujourd'hui, vous diriez que vous êtes le même ou vous avez...
Non, l'esprit n'a pas changé.
L'esprit n'a pas changé. On ne change pas vraiment finalement.
Non, les grandes lignes sont effectivement, comme vous dites très justement, entre 8 et 13 ans.
Ouais, ouais.
C'est là où on se fixe sa personnalité et où on prend les orientations qu'on a envie d'avoir.
Ouais, donc pour vous, vous êtes finalement, vous êtes les mêmes rêves, la même personnalité. Est-ce qu'on peut évoluer quand même ?
Oui, on peut évoluer, ouais. Oui, bien sûr, on peut évoluer, on peut s'affirmer, on peut se trouver,
ouais.
Et on peut, compléter ses acquis par des connaissances nécessaires,
ouais.
Qui permettent d'améliorer et de trouver encore mieux ce que l'on a envie d'avoir.
Et par les rencontres aussi, j'imagine, on peut s'améliorer.
Alors voilà, ça c'est un apport effectivement indispensable. Je pensais à des compétences techniques qui permettent donc de mieux voyager, avec des téléphones et smartphones par exemple, pour ne citer que ça.
Ouais.
Mais vous avez raison, les rencontres c'est très important.
Et les rencontres justement, alors pendant vos voyages, parce que ce que j'ai pas dit, ce qu'on n'a pas dit encore, c'est que ces voyages... ces 50 000 kilomètres aux États-Unis, vous les avez parcourus sur plusieurs années, en fait.
Oui, c'est ça.
Ce sont des étapes.
C'est ça. Il y a eu quatre voyages principaux.
Quatre voyages principaux.
Il y en a eu trois dans les mêmes années, 95 à 2005, on va dire, pour simplifier.
Ouais.
Et puis l'un beaucoup plus récemment, en 2017, grâce à ma femme, d'ailleurs, qui m'a autorisé à repartir.
Ouais.
Et c'est ça qui m'a permis de refaire des passages à des endroits que je connaissais, ou d'aller plus loin aussi, naturellement. Je vais toujours plus loin.
Ouais.
Mais de reprendre un peu et voir l'évolution de ce qu'est devenu l'Amérique dans l'Ouest en 15 ou 20 ans.
Ouais,
et ça, c'est vrai que c'est intéressant de voir la différence.
De voir comment tout ça évolue et justement, qu'est-ce qui vous frappe aujourd'hui dans l'évolution que vous avez vue ? Qu'est-ce qui vous étonne ?
Alors, m'étonner, pas grand-chose.
Pas grand-chose.
Non, on ne peut pas dire ça comme ça.
Ouais.
On va dire que la vie est presque un peu plus facile parce que tout est bien indiqué. Pour dormir, si jamais tout est fermé, tout est plein, on peut toujours dormir par terre, toujours des camions qui traînent. Enfin, il n'y a pas plus de difficultés qu'avant. Je trouve que la vie est facile là-bas.
Mais plutôt moins.
Alors qu'en fait, si on y habite et si on y vit et qu'on y travaille, la vie est forcément plus difficile.
Mmh.
Donc c'est ça qui est intéressant de constater, c'est que quand on y va pour, entre guillemets, s'amuser, puisque finalement c'est ce que je fais, c'est un terrain de jeu immense et fantastique et sans cesse renouvelé. Mais par rapport à il y a 20 ans, on va dire que ça s'uniformise un petit peu trop.
D'accord.
C'est ça qui est un peu dommage. Mais c'est partout dans le monde. On trouve la même mode vestimentaire à tout l'autre bout du monde.
Ouais.
Et c'est un peu dommage.
Et c'est pour ça que justement, sortir un peu des sentiers battus, c'est ça qui...
Rencontrer des gens authentiques.
Ouais.
Quelqu'un qui vient m'accueillir avec son fusil ou son pistolet, c'est arrivé.
Parce que
je suis entré sur son terrain pour prendre une photo d'épave de voiture qui m'a dit qu'il voulait offrir à sa fille pour la restaurer. Elle ne la restaurera jamais. Mais on a discuté ensemble, il m'a donné sa carte, sa carte de visite. Un type authentique qui est à la retraite et tout, avec sa moustache et tout, en guidon de bicyclette et ses lunettes noires et son fusil. Et ce type-là, il est complètement génial parce qu'il n'a pas d'adresse en fait sur sa carte de visite. Parce qu'en fait, il a l'emplacement de sa maison. Quand on vient de l'Est, elle est à droite. Quand on vient de l'Ouest, elle est à gauche.
C'est drôle. Hein.
Ouais. Et c'est la vérité. J'ai la carte.
Ouais.
Elle est dans le livre. Elle est dans quatre pneus sur la route.
C'est drôle. Et qu'est-ce qui vous ont apporté qu'est-ce que vous ont apporté toutes ces rencontres là pendant ces voyages dans l'Ouest américain ? Qu'est-ce que vous avez appris de ces personnes,
La réalité d'une vie, c'est que en fait, on est extrêmement privilégié. On est extrêmement privilégié parce qu'on est en bonne santé.
Quand vous dites on est privilégié, c'est que nous en France.
En France ou en Europe de l'Ouest, on va dire. Parce que j'ai rencontré des Hollandais, des Allemands là-bas, ça arrive.
Ouais.
Des Belges aussi. Donc vraiment, on est en Europe de l'Ouest. C'est notre culture, évidemment, mais on est extrêmement privilégiés. Pour ceux qui, comme nous, comme vous, comme moi, on peut avoir la chance, de voyager.
Ouais.
Pour voyager, il faut un peu d'argent, c'est clair. Si on n'a pas, c'est très difficile. Mmh. Et je reconnais que c'est un impératif et que tout le monde n'en a pas. C'est pour ça que je souligne le côté privilégié.
Ouais, ouais.
Il faut avoir un peu de temps aussi et ne pas être indispensable. Je pense à des parents âgés et malades. Beaucoup de gens, moi-même j'en ai encore. Bon, on ne peut pas voyager si on a des parents malades. On est préoccupé, ils ont besoin de nous. Bon, on ne peut pas faire ça. Et il faut ne pas être indispensable aussi pour le travail. Il faut être disponible. Donc il y a quand même au moins trois paramètres qui sont impératifs. Et si un seul des trois n'est pas là, on ne peut pas y aller.
On ne peut pas y aller. Donc c'est profiter du moment présent quand on peut au maximum.
C'est pour ça que les gens que l'on rencontre là-bas, pour revenir sur votre question Anne, c'est qu'effectivement les gens que l'on rencontre, ils n'ont pas votre chance. Ils habitent là et ça se trouve, ils sont jamais sortis de Pocatello, Idaho. Et Pocatello, Idaho, moi j'aime bien, mais j'y vivrai pas. Voilà. C'est comme ça.
Ouais, c'est vous, vous êtes ravis d'aller vers eux, de les rencontrer, mais voilà, il y a autre chose et vous avez envie d'explorer.
Et on me pose des questions, on me dit, mais alors finalement, un Français, un Européen, c'est comme vous. Je dis, alors je me regarde et je fais, oui, c'est un peu comme moi, mais je ne suis pas le représentant total, mais enfin, oui, certains sont comme moi. Parce qu'au Kansas ou au Nebraska, ils n'en ont jamais vu, quoi.
C'est rigolo.
Que dans les villages où je vais, évidemment, il n'y a pas grand monde, mais c'est volontaire de ma part.
Ouais, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous auriez comme message à faire passer aux jeunes ou comme message à nos jeunes aujourd'hui, pour leur vie à venir, vie future?
Il y a plusieurs thèmes qui sont importants à mon avis, c'est prendre confiance en soi, ne pas avoir peur de se tromper. L'erreur, elle est géniale parce qu'elle est constructive et qu'elle permet de recommencer différemment. Moi, j'en ai fait plein des erreurs. J'ai perdu de l'argent, j'ai fait des conneries, j'ai perdu des trucs, j'ai failli avoir des accidents, mais de ma faute, complètement de ma faute. Et j'assume totalement. Et bien, grâce à ça, on ne fait plus les mêmes erreurs après et donc on va plus loin. Et donc c'est ça. Et puis il faut aller vers les autres parce qu'ils ont toujours quelque chose à vous apporter. Le clochard qui est à côté, là, qui est par terre, qui était le seul être vivant, qui était à Rome, Idaho, de mémoire. Rome, c'est pas le Rome d'Italie, c'est le Rome de là-bas. Il y a une cabane avec Pepsi-Cola et c'est tout. Le reste, c'est en dehors, c'est dans le paysage. Et bien le clochard, il était là. Je l'ai pris parce que sinon personne ne l'aurait jamais pris avant au moins le lendemain avec son chien. Et bien on a fait un voyage formidable.
Il vous a apporté...
On a discuté, il m'a parlé de son frère. Je l'ai amené là où il fallait, à Winnemucca, Nevada. Je lui ai fait franchir un état pour le rapprocher de San Francisco et tout. Et rien que ça, c'est génial. Parce que voilà.
Donc c'est
un jeune. Donc même jeune, on peut aller sur la route et faire des choses bien.
Ouais, et c'est aussi ne pas avoir peur de l'autre.
Comme on l'a dit.
Et comme on l'a dit, comme vous le disiez tout à l'heure. Et c'est toujours... et chaque personne... vous apporte quelque chose.
Exactement.
C'est chaque personne a quelque chose d'intéressant, en tout cas, en
Absolument.
Lui. On approche de la fin de l'émission. Frédéric, ça passe très, très vite.
Je suis encore là si vous voulez.
Ça passe très, très vite. Donc, moi, je voulais vous remercier d'être venu parce que c'est vraiment... c'était un moment agréable et j'ai vraiment aimé partager avec vous. Voilà, plein de thèmes. Comment vous voyez les choses, la vie, ce que vous avez à transmettre à nos jeunes. Donc, c'était super intéressant. Donc, nous étions sur Radio Aligre 93.1 pour la nouvelle émission Les Grands SAMU sur la transmission de nos aînés. Je voulais remercier aussi à la technique Nicolas Le Serre et Julien Bondeau. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Bonne journée à tous.
Au revoir. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gone. Yeah.
comfortable of me. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world.